VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Abdourahmane Dia en direct de Washington pour cette édition de 19h30 temps universel. Nous sommes mardi 26 décembre 2017 au sommaire. Affrontement entre orpailleurs au Tchad fait une quinzaine de morts. Un peu plus de 2 millions de Libériens aux urnes pour le second tour de la présidentielle opposant l'ex-footballeur Georges Weah au vice-président Joseph Boakai. Exécution en Égypte de 15 personnes reconnues coupables de terrorisme. Et le chef rebelle centrafricain Nouridine Adam menace de marcher sur Bangui.
La population est là. La population est en train de vaguer à ses occupations. Nouridine est là avec ses troupes. Dans, sur le plan sécuritaire, à Birao, il n'y a pas de problème. Les gens circulent très bien. Il n'y a pas de problème à Birao.
Interview à suivre dans la partie magazine. En Russie, le gouvernement défend la légitimité de la présidentielle de mars prochain, malgré le rejet de la candidature du principal opposant. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Bienvenue à tous. Au Tchad, des affrontements entre orpailleurs ont fait une quinzaine de morts le jour de Noël dans l'extrême nord du pays. Le point avec Bagassi Koura.
Ces violences se sont déroulées hier à Iri-Bourgouri, aux confins des frontières du Tchad et de la Libye. C'est une localité où se côtoient des orpailleurs venus des différentes régions du pays. Selon une source sécuritaire citée par l'AFP, une première bagarre entre un autochtone et un halogène a fait d'abord un mort. Il s'en est suivi un affrontement généralisé qui a entraîné une quinzaine de morts et plusieurs blessés. Ces affrontements ont opposé des membres de l'ethnie Zagawa venus se venger d'une première attaque perpétrée par des Goran Mourdia, selon la presse locale qui faisait état de plusieurs véhicules détruits et de l'arrivée sur place d'une colonne de l'armée dans l'après-midi pour éviter de nouvelles violences et règlements de comptes.
On reste au Tchad où le président turc Recep Tayyip Erdogan est arrivé ce mardi pour sa première visite officielle. Le chef de l'État turc est accompagné d'une dizaine de ministres dont ceux de la Défense et des Affaires étrangères et d'une centaine d'hommes d'affaires turcs. Comme au Soudan où il s'était rendu avant N'Djamena, l'enjeu de cette étape tchadienne est notamment économique au moment où le Tchad traverse une grave crise économique. En Centrafrique, le chef de guerre Nouridine Adam sort de son silence dans un entretien accordé à l'AFP. Il menace de marcher sur Bangui. Le chef du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, une faction de l'ex-rébellion Séléka, parle d'une ligne rouge dont le gouvernement s'approche et qui pourrait le pousser à lancer ses hommes, comme en 2013, sur Bangui, la capitale. Adam accuse le président Touadéra d'être un criminel qui n'a aucune chance de finir son mandat. Nous y reviendrons dans la partie magazine. Les Libériens ont rendez-vous avec les urnes aujourd'hui pour choisir leur nouveau président entre la légende du football George Weah et le vice-président sortant Joseph Boakai. L'un des deux hommes sera désigné successeur d'Hélène Johnson Sirleaf, seule femme à avoir été élue chef d'État en Afrique. Salwa Jafari.
Un second tour visiblement mieux organisé que le premier. Plusieurs électeurs ont pu voter rapidement sans que se constituent de longues files d'attente. Pour éviter les agglutinements autour des bureaux de vote, le registre national des électeurs a été revu par la Commission électorale nationale et les listes des inscrits affichées plusieurs jours à l'avance à l'extérieur des centres de vote.
Ce que j'ai constaté aujourd'hui, c'est que le taux de participation semble être inférieur à ce que nous avions au premier tour, mais je pense que c'est dû à une bonne organisation. Les gens savent où aller pour voter.
Les bureaux de vote resteront accessibles jusqu'à 18h pour les quelques 2,1 millions d'électeurs enregistrés. Les premiers résultats sont attendus dans les prochains jours. En lice, le vice-président sortant Joseph Boakai et l'ex-star du ballon rond, George Weah, qui a d'ailleurs voté ce matin sous les acclamations de ses supporters.
Je vais gagner.
Le président élu n'aura pas la tâche facile. Le Libéria est un pays meurtri par 14 ans de guerre civile, puis par l'épidémie d'Ebola, dont il peine toujours à se redresser.
Au Nigeria, 10 habitants de villages à la population principalement chrétienne ont été tués au cours de deux attaques dans l'état de Kaduna, dans le nord du pays. Un porte-parole du gouverneur de l'état a précisé que des troupes avaient été déployées pour empêcher d'autres attaques. Le sud de l'état de Kaduna connaît depuis une trentaine d'années des affrontements meurtriers entre communautés d'agriculteurs chrétiens et d'éleveurs musulmans. Les accrochages sont essentiellement dus à des conflits pour les terres et les pâturages. Par ailleurs, l'armée nigériane a repoussé une attaque de Boko Haram contre Maïdougouri, la capitale de l'état de Borno, dans le nord-est du pays. En Égypte, 15 hommes reconnus coupables d'attaques terroristes contre des militaires et des policiers ont été exécutés par pendaison. Il s'agit de la plus importante exécution collective en Égypte depuis 2015, lorsque 6 djihadistes ont été pendus. Ces exécutions ont eu lieu dans deux prisons où étaient détenus ces hommes condamnés à mort par des tribunaux militaires pour des attaques commises dans la région du Sinaï, en proie à une insurrection islamiste.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, un drame a été évité de justesse à l'aéroport de Boston. Un avion de la compagnie JetBlue a dérapé sur le tarmac gelé après son atterrissage. Tous les passagers ont pu sortir indemnes de l'appareil. Les passagers ont été transportés par bus depuis le tarmac jusqu'à un terminal de l'aéroport Logan de Boston. « Tout va bien, nous avons juste dérapé sur la glace », a déclaré un pilote au contrôleur aérien après l'atterrissage, selon un enregistrement reçu par la chaîne ABC. Élection présidentielle en Russie, l'Union européenne désapprouve le rejet de la candidature d'Alexei Navalny, principal opposant au président Vladimir Poutine, mais le Kremlin défend la légitimité du scrutin de mars prochain. Le point avec Dilidico.
La décision de la commission électorale russe jette un sérieux doute sur le pluralisme politique en Russie et la perspective d'élections démocratiques l'année prochaine, a affirmé dans un communiqué Maya Kosiantych, porte-parole du Service européen pour l'action extérieure. L'annonce de la commission électorale russe n'est pas une surprise. L'institution ayant à plusieurs reprises averti que l'opposant ne pourrait se présenter avant 2028 en raison d'une condamnation à 5 ans de prison avec sursis dans une affaire remontant à 2009. La porte-parole du Service européen pour l'action extérieure a rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme avait jugé que M. Navalny n'avait pas eu droit à un procès équitable en 2013. Il avait finalement été condamné en février dernier pour détournement de fonds. L'UE appelle les autorités russes à inviter les observateurs européens lors des élections présidentielles du 18 mars prochain, a ajouté Maya Kosiantych.
Une frégate de la marine britannique a escorté un navire de guerre russe qui s'approchait des eaux territoriales britanniques. Cela s'est passé le jour de Noël, en tout cas c'est ce qu'a indiqué le ministère britannique de la Défense. Des groupes rebelles syriens ont rejeté l'appel de Moscou à tenir un sommet avec le régime syrien fin janvier pour trouver une issue au conflit qui ravage la Syrie. Yacouba Ouedraogo.
La Russie et l'Iran, alliés du président Bachar al-Assad, et la Turquie, soutien de la rébellion, ont proposé de tenir un congrès de dialogue national à Sotchi les 29 et 30 janvier. 40 groupes rebelles ont repoussé cette offre. Nous rejetons totalement la tentative de la Russie de contourner le processus de Genève, ont-ils indiqué. Ces groupes font référence au pourparlers de paix tenus à plusieurs reprises à Genève, sous l'égide de l'ONU et qui n'ont jamais abouti. Damas a par contre accepté de participer au sommet de Sotchi, alors qu'il a souvent critiqué le processus de Genève. Parmi les factions signataires de ce processus figurent le mouvement islamiste Ahrar al-Sham et des groupes comme les brigades al-Moutassem. Ces derniers reprochent à Moscou sa partialité dans le processus de règlement du conflit. Les négociations ont toujours achoppé sur le sort de M. Assad, le régime refusant d'évoquer l'éventualité de son départ du pouvoir réclamé par l'opposition.
Un dissident chinois a été condamné à 8 ans de prison. Il s'agit de la sentence la plus lourde infligée en défenseur des droits de l'homme depuis la reconduction de Xi Jinping à la tête de la Chine en octobre dernier. Wugan, arrêté en mai 2015 alors qu'il travaillait pour un cabinet d'avocats de Pékin, a été condamné pour tentative de subversion. La Fédération israélienne des échecs réclame des compensations financières à la Fédération internationale après que plusieurs de ses joueurs ont été privés de visa pour l'Arabie Saoudite dans le cadre d'un tournoi international organisé à Riyad. 7 joueurs israéliens d'échecs avaient demandé un visa pour participer au tournoi mondial Roi Salman prévu à Riyad du 26 au 30 décembre. Il s'agit de la première compétition internationale d'échecs dont l'organisation est confiée à l'Arabie Saoudite. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et c'est Eric Manirakiza qui nous présente la page écho.
Le FMI conseille aux États et aux institutions régionales de la zone CEMAC de tenir leurs engagements de politique économique pour espérer une amélioration progressive de la situation économique et financière. La poursuite de l'assainissement budgétaire, la réduction des investissements publics non prioritaires, l'accroissement des recettes budgétaires non pétrolières, l'amélioration du climat des affaires, de même que le renforcement de la gouvernance et de la transparence, soutiendraient une croissance plus forte à moyen terme. Au Cameroun, le gouvernement commencera début janvier la distribution gratuite des ordinateurs portables aux étudiants locaux. Ce programme vise à stimuler le développement de l'économie numérique et la diffusion des savoirs au Cameroun. Les étudiants de Yaoundé 1 et 2 seront servis les premiers, puis en février suivront Douala, Bamenda et Boya, ainsi que les établissements du secteur privé. Ces laptops portent la marque PBHEV, Paul Biya Higher Education Vision. Le gouvernement a commandé en Chine 500 000 ordinateurs pour un budget de 75 milliards de francs CFA. Le premier acompte de 80 000 ordinateurs a été livré en fin de semaine dernière. Enfin, la Turquie veut s'offrir plus de parts de marché en Afrique. Le président Recep Tayyip Erdogan est en tournée au Soudan, au Tchad et en Tunisie pour stimuler cette coopération économique. La Turquie est déjà très active dans le transport aérien et Turkish Airlines dessert plus de 151 destinations africaines.
Et on retrouve Yacouba Ouedraogo pour cette dernière page des sports d'aujourd'hui. Yacouba, rebonsoir.
Rebonsoir Abdourahmane.
Yaya Touré qui veut rejouer avec les éléphants.
Oui, Abdourahmane, revirement, l'annonce a été faite par son agent Dimitri Selouk via Twitter. Le milieu de terrain de Manchester City, 34 ans, 97 sélections, n'a plus joué avec les éléphants depuis septembre 2016. Vainqueur de la CAN 2015, Yaya Touré n'a joué que 8 matchs. Toute compétition confondue avec le leader de la Premier League, la prochaine opportunité de remporter un titre avec la sélection ivoirienne non qualifiée pour le Mondial 2018 sera la CAN 2019.
Ben on verra. Alors, pour ce qui est du footballeur africain de l'année, le vote est ouvert au public.
C'est une nouveauté, Abdourahmane. Ainsi en a décidé la CAF qui donne aussi la possibilité aux fans de désigner le 11 type de l'année sur ses comptes Facebook et Twitter. Pour le meilleur joueur africain de l'année, les votes des fans se font sur le site de la CAF. Ça se joue, on le sait, entre Mohamed Salah, Sadio Mané et Pierre-Emerick Aubameyang. Les lauréats seront dévoilés le 4 janvier à Accra, au Ghana donc.
N'Golo Kanté, désigné joueur français de l'année 2017 par France Football.
Le milieu de terrain de Chelsea et de l'équipe de France d'origine malienne a reçu le 60e trophée du joueur français de l'année décerné par le magazine France Football. Il était en concurrence avec Kylian Mbappé. Kanté a été plébiscité avec 90 points devançant l'attaquant de PSG de 5 petites unités. Karim Benzema complète le trio de tête loin derrière avec 52 points.
En Angleterre, Boxing Day réussi à Wembley pour Harry Kane.
Face à Southampton, Kane s'est offert un triplé pour une nette victoire des Spurs. 5-2 avec désormais 56 buts. L'attaquant anglais de Tottenham est sûr de finir meilleur buteur de l'année 2017. Toute compétition confondue. Il devance Lionel Messi, 54 réalisations. Et le trio a 53 buts composé de Robert Lewandowski du Bayern Munich, Cristiano Ronaldo du Real Madrid et Edinson Cavani du PSG.
Et puis, on a aussi d'autres résultats du Boxing Day.
Tout à fait, Abdourahmane. Liverpool a écrasé Swansea 5-0. Manchester United s'est fait peur, mais a réussi à arracher le match nul 2-2 face à Burnley, qui menait pourtant 2-0 à la mi-temps.
Merci beaucoup, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. On passe au dossier du jour. En République centrafricaine, l'un des principaux chefs des groupes armés sévissant dans l'extrême nord du pays menace de reprendre la guerre et marcher sur Bangui. Dans une interview à l'AFP, Noureddine Adam, leader du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, FPRC, accuse le gouvernement centrafricain de s'approcher de la ligne rouge. Félix Yepassi Zembrou a joint Daniel Andal Zuma. Il est le préfet intérimaire de la Vakaga, région contrôlée par Noureddine Adam et ses hommes.
C'est pour la première fois que j'apprends de telles informations. Donc, on va chercher à savoir ça, si c'est vrai ou faux.
Mais sinon, Noureddine Adam et ses hommes sont toujours dans la Vakaga, dans la région de Birao.
Effectivement, Noureddine est à Birao avec tous ses éléments. Pas seulement à Birao, à Ndélé, à Bria et partout, même à Bandoro aussi.
Comment se comporte-t-il vis-à-vis de la population?
La population est là. La population est en train de vaguer à ses occupations. Noureddine est là avec ses troupes. Donc, sur le plan sécuritaire, à Birao, il n'y a pas de problème. Les gens circulent très bien. Il n'y a pas de problème à Birao.
Non, la population n'est pas inquiétée de la présence de Noureddine Adam et ses hommes là-bas dans la région.
Non. Puisqu'ils ne font pas des exactions, ils sont troupés, ils attendent seulement une négociation avec le gouvernement. En tout cas, au niveau de la population, il n'y a pas d'inquiétude.
Comment s'est passée la fête de Noël dans la région, notamment à Birao?
Ça, c'est une belle question. Et moi-même, j'ai été invité à l'église baptiste hier, depuis 9h du matin jusqu'à 12h. On était là. L'imam de la mosquée était là avec plusieurs invités, plusieurs musulmans aussi. Ensemble, on a célébré la fête de Noël à l'église baptiste hier.
Et comment se prépare la fête du Nouvel An?
La fête du Nouvel An, c'est une fête qui est à la portée de tout le monde. Donc, comme il y a la sécurité, comme il y a la paix à Birao, ça doit se passer dans la normalité. Il n'y a pas de problème, j'espère.
Mais au niveau de la scolarité, les enfants vont à l'école en ce moment, monsieur le préfet?
Les enfants vont à l'école, mais il y a un problème d'enseignants. La plupart des enseignants sont encore à Bangui. Ils viennent par la voie aérienne de la MINUSCA. La semaine passée, si enseignants étaient là, on espérait avoir encore d'autres. Aujourd'hui, malheureusement, ils ne sont pas arrivés. On nous a promis que les autres arriveront le jeudi prochain.
Les élèves de la terminale ont-ils passé normalement l'épreuve du baccalauréat cette année?
Oui, pour l'année passée, l'année scolaire 2016-2017,
c'était Daniel Andal Zuma, préfet intérimaire de la Vakaga, région contrôlée par le FPRC de Noureddine Adam.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Selon un récent rapport du centre de réflexion marocain OCP Policy Center, sur 10 migrants ouest-africains, 7 restent sur le continent en s'enracinant dans différents pays sur leur route. Le Maroc fait partie de ces pays devenus pays d'accueil pour des milliers de subsahariens. Salwa Diafari.
Sur l'une des principales artères de la capitale Rabat, Alioune Diaye se fond dans une foule de marchands ambulants. Depuis qu'il a renoncé à traverser la Méditerranée pour l'Espagne, ce jeune Sénégalais a multiplié les petits boulots avant de se mettre à son compte.
Quand je suis venu au Maroc, je considère que le Maroc c'est un pays ami. Je considère que le Maroc c'est un pays dans lequel j'ai le droit aussi. J'ai facilité de gagner ma vie. Quand quelqu'un est chez lui, il pense qu'il a le droit d'aller quitter pour voir dans les autres pays pour gagner sa chance. Je crois qu'il est possible de le faire.
Le parcours d'Aliou illustre une tendance qui polarise l'attention des responsables politiques, des humanitaires et des chercheurs. Avec la déstabilisation de la Libye et le durcissement de la politique migratoire européenne, le Maroc, pays de transit, est devenu un pays d'accueil. Les autorités marocaines ont basculé d'une approche sécuritaire guerre qui criminalisait l'immigration clandestine à un discours d'intégration lié au rapprochement avec l'Union africaine, affirme le sociologue Mehdi Aliwa, par ailleurs président d'une association d'aide aux migrants. Papa Demba Mbaye a quitté son poste d'enseignant au Sénégal il y a 7 ans pour vivre l'aventure au Maroc. Attiré par les promesses d'emploi des centres d'appel, un secteur en plein développement en quête de francophones, il a vite compris que ce n'était pas un métier d'avenir. Grand défenseur du vivre ensemble, il anime une troupe de théâtre en périphérie de Rabat.
C'est un peu compliqué quand même. Moi, j'ai entendu à la radio donc le roi dire qu'il faut faciliter donc les papiers, mais j'ai comme l'impression que ça n'a pas été entendu.
Les autorités bouclent actuellement une opération de régularisation pour quelques 25 000 demandes de séjour après une vague de 23 000 régularisations en 2014. Leur nombre croissant n'est pas sans créer des tensions, des violences. Les dernières en date ont opposé en novembre dernier des riverains et des jeunes subsahariens d'un campement de Casablanca. On ne peut pas être accueilli à bras ouverts partout, constate Olivier Foutou, auteur et président d'une chorale à la cathédrale de Rabat. Ce Congolais de 34 ans est très remonté contre la mauvaise image donnée par ceux qui ne pensent qu'à l'Europe et ne veulent pas s'intégrer.
N'est-ce pas, à découvrir aussi l'autre. À travers les champs ethniques, on peut connaître vraiment l'identité, n'est-ce pas, de chacun.
Et une identité de résident congolais au Maroc ne lui déplaît pas.
C'est ici au Maroc donc, que je trouve plus de diversité des nationalités. Et les gens sont un peu libres ici par rapport à d'autres pays.
Les statistiques officielles montrent que près de 35 000 migrants ont obtenu une résidence en 2014. C'est légèrement au-dessus du nombre de migrants européens venus travailler ou cherchant une maison de retraite sous le soleil marocain.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Sénégal, la foire internationale de Dakar se tient depuis le 16 décembre, et ce jusqu'au 31. Plus de 40 pays y prennent part. Avec plus de 300 000 visiteurs chaque année, cet événement est considéré comme le plus grand rendez-vous commercial du Sénégal et de la sous-région. Il permet aux commerçants de vendre et faire découvrir les articles de leurs pays respectifs. L'intégration africaine y est mise en avant et cette année, c'est l'Égypte qui est le pays invité d'honneur afin d'exposer largement son commerce et sa culture. Reportage à Dakar, Seydina Abagay.
Au-delà des échanges commerciaux ponctuels, les commerçants présents à la foire de Dakar veulent nouer des partenariats à long terme, comme le souligne Ahmed Mohamed, un exposant venu d'Égypte.
Nous sommes ici parce que c'est une grande foire. Il y a beaucoup d'échanges et le business marche bien. Les clients viennent en nombre, mais le plus important, ce n'est pas de vendre, mais d'exposer les produits afin de trouver des partenariats. D'ailleurs, si on trouve des partenaires, on sera heureux de rester au Sénégal pour fructifier notre business.
Boubacar Sadibou Diédjou, membre des exposants de Ziguinchor, estime que la foire de Dakar permet également aux producteurs locaux de montrer leur savoir-faire.
La foire est un événement qui permet à chaque terroir de valoriser un peu les potentialités locales. Donc à Casamance, nous avons une région agricole où se développent aussi des activités de pêche, d'arboriculture et tout. C'est bien de vendre parce que c'est vrai qu'on a mis du temps pour transformer des produits. Il va falloir qu'on trouve une occasion pour vendre comme on l'a fait. Mais là, c'est ponctuel. Pour la continuité, il va falloir trouver des partenaires.
La foire de Dakar va devenir un carrefour pour les commerçants qui veulent nouer des partenariats. Cheikh Ndiaye, directeur de la foire de Dakar, affirme que de nouvelles offres sont mises en place pour atteindre cet objectif.
La foire de Dakar, ce n'est pas que des échanges commerciaux, c'est aussi un forum, c'est aussi des rencontres B2B, c'est aussi toutes sortes d'occasions pour se parler, pour converser, pour développer des relations d'affaires. Donc toute personne intéressée par un partenariat quelconque, dans quelque secteur que ce soit, peut avoir l'opportunité de trouver ce partenaire.
Vieille de plus de 40 ans, La foire internationale de Dakar est en perpétuelle mutation. Au-delà des offres classiques, elle se positionne désormais comme une opportunité pour les commerçants qui veulent étendre leur business. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Lionel Gaïma, présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Abba, Soleil FM, Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya, Burkina Faso et bien d'autres. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Dans la nuit du 11 septembre 2012, des membres du groupe terroriste Ansar al-Sharia ont pris pour cible deux complexes du gouvernement américain à Benghazi en Libye. Armés des mitrailleuses, de lance-roquettes et de mortiers, les militants ont attaqué à plusieurs reprises la mission spéciale américaine et une annexe voisine, tuant 4 Américains, y compris l'ambassadeur américain, et blessant 2 autres agents américains ainsi que 3 gardiens libyens. Les deux complexes ont été complètement détruits. Des primes ont été offertes et d'intenses recherches lancées pour retrouver les responsables de l'attaque. Le 15 juin, le responsable militaire américain a appréhendé le principal suspect de l'opération. Hamed Abou Katala, le responsable d'Ansar al-Sharia à Benghazi, a été inculpé de meurtre et d'autres chefs d'accusation. D'autres suspects de l'attaque courent toujours. Et les États-Unis feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que justice soit rendue. Créé après la chute du dirigeant libyen de longue date, Muammar Kadhafi, Ansar al-Sharia a été impliqué dans plusieurs attaques dans la région, prenant pour cible des civils et assassinant ou tenant d'assassiner des responsables sécuritaires et politiques dans l'est de la Libye. Ses membres continuent de poser une menace aux intérêts américains en Libye et le groupe a été désigné Organisation terroriste internationale. À cet effet, le programme Prime pour la justice offre jusqu'à 10 millions de dollars pour toute information menant à l'arrestation ou la condamnation de tout individu impliqué dans les attaques de Benghazi. Les États-Unis garantissent que tous les indices feront l'objet d'enquêtes et l'identité des informateurs sera tenue confidentielle. Si nécessaire, les États-Unis sont préparés à protéger les informateurs en les réinstallant ailleurs. Si vous disposez de telles informations, contactez le Bureau régional de la sécurité de l'ambassade américaine la plus proche et le site d'information www.rewr2sforg. USTIC.net ou envoyer un email à info@rewardforjustice.net.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.